Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui retraité, Dominique von Bourg a commencé sa carrière de journaliste à la Tribune de Genève. Durant 4 ans, il a été correspondant aux États-Unis pour le compte de ce quotidien. Puis il a travaillé à la télévision suisse romande durant 20 ans. Il y fut tour à tour journaliste, producteur ou présentateur d'émissions comme Table ouverte ou Temps présent. Il a ensuite rejoint à nouveau les rangs de la Tribune de Genève, cette fois-ci comme rédacteur en chef, puis à nouveau comme journaliste. Lors de cette interview réalisée durant l'été 2023, il a évoqué à mon micro de nombreux souvenirs liés à son parcours professionnel. Dominique von Bourg commence par nous parler de son expérience de correspondant aux États-Unis.
Donc pour moi, cette période aux États-Unis était assez extraordinaire parce que d'abord, j'étais très jeune journaliste, depuis 3-4 ans, pas plus. Et puis, je suis tombé aux États-Unis à une période extraordinaire. C'était la fin de Watergate, la démission de Nixon et tout ça, une période où les médias américains, les journalistes américains étaient, je dirais, à leur sommet, point de vue professionnel. Donc j'étais très admiratif, j'ai beaucoup appris là-bas. C'était une période aussi où le journalisme en Suisse était plus complaisant.
Établir.
Pour vous donner juste une petite anecdote, quand je suis rentré des États-Unis, je racontais à mes collègues qu'en Suisse, quand on n'était pas sûr d'une information, on la mettait au conditionnel. Et aux États-Unis, quand on n'était pas sûr d'une information, on prenait son téléphone et on cherchait encore. C'était une perception que j'avais eue à l'époque, enfin, d'un journaliste très professionnel. Je me souviens d'avoir rencontré, lors de voyages de presse, etc., des collègues américains que je disais dans le Washington Post, le New York Times ou d'autres. Et j'étais tout à fait surpris en les découvrant de découvrir que c'était des hommes de droite ou de gauche ou qui avaient des idées, des engagements, etc., alors que dans ce qu'ils écrivaient, ça ne se sentait absolument pas. Donc pour moi, ça a été une grande, grande leçon professionnelle.
Est-ce que les tout premiers mois ont été quand même difficiles pour vous adapter, pour mettre le pied à l'étrier dans ce travail?
Bah, écoutez, ils ont été difficiles, d'autant plus que quand mon rédacteur en chef de l'époque m'avait convoqué un 15 septembre, je me souviens, en me demandant si je voulais commencer aux États-Unis, à Washington, le 1er janvier qui suivait. Je lui ai dit, écoutez, c'est bien gentil, mais moi j'ai fait latin grec, donc je ne parlais pas l'anglais. Donc il a fallu que je me mette à l'anglais en 3 mois à toute pompe, à haute dose, donc au début. C'est vrai qu'à part lire les journaux, je n'étais pas très capable d'enquêter. Et ça a changé vite. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que 8 mois après que je sois arrivé, ça a été la fin du Watergate, la démission de Nixon. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là que j'étais à égalité avec mes collègues, c'est-à-dire on recommençait tous à zéro. Tandis qu'avant, eux avaient eu tout un vécu de l'année, des 2 ans qui avaient précédé, que je n'avais pas vécu. Donc, c'est aussi une circonstance qui m'a beaucoup aidé.
Est-ce que vous avez de cette période un souvenir très marquant ou drôle, d'une rencontre ou peut-être d'un article très particulier que vous avez fait?
De mes articles, pas de souvenir particulier. J'ai un souvenir, c'est assez anecdotique, ou ouais, encore, c'est même un peu plus. Donc, vous vous souvenez qu'après la démission de Nixon, le vice-président d'alors Ford lui a succédé, et une année et demie après, il y avait des élections. Et il y avait un candidat démocrate qui n'avait aucune aura, aucune crédibilité auprès de mes collègues américains. C'était Jimmy Carter. Et moi, je l'avais vu à un discours assez tôt dans la campagne. Et j'étais tellement impressionné par l'ambition qui transpirait de ce type à travers ses gestes, son attitude, ses yeux. J'étais absolument subjugué, et j'ai dit ce type-là va être président. Et je me souviens d'avoir gagné plusieurs paris contre des collègues américains qui, eux, ne croyaient pas en Carter, et moi, oui.
On passe un petit peu plus loin. À l'âge de 33 ans, vous êtes entré à la télévision suisse romande. Pourquoi ce
Oui.
changement?
Tout bêtement parce qu'on me l'a proposé et que ça m'intéressait. J'ai eu la chance que tous les changements que j'ai eus dans ma carrière, j'en ai eu beaucoup. Ont tous été proposés, ont tous été des opportunités. Donc, oui, la télévision m'attirait de toute façon. Aller à Berne, puisqu'il s'agissait d'aller à Berne, là, ça me convenait aussi, puisque j'avais fait ma formation en allemand, donc je parlais bien l'allemand. Puis la politique, ça a toujours été mon truc. Donc, aller à Berne, c'est vrai que c'était une opportunité.
Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première apparition à l'écran? Quels sont vos souvenirs vous en gardez?
Non, je garde un souvenir, non pas de ma première apparition à l'écran, mais je garde un souvenir assez positif aussi de la première table ouverte que j'ai animée. Vous vous souvenez ce que c'était, cette table ouverte? C'était un débat du dimanche à midi
Sur un thème précis.
sur un thème précis, voilà. C'était sur l'exportation d'armes, je crois. Enfin bref, j'avais invité deux conseillers qui étaient d'avis complètement opposés. Donc j'avais proposé un face-à-face et pas un débat à quatre ou six comme d'habitude. Et il s'est trouvé qu'après 3 minutes de débat, les deux étaient d'accord. Parce qu'ils s'étaient dit, les deux en venant, moi je ne vais pas me battre, moi je vais mettre d'accord avec l'autre et puis on verra bien ce qui se passe. Et les gens, régis à la TV, étaient morts de trouille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et moi, j'avais tellement bien préparé cette émission que je connaissais les dossiers sur le bout des doigts. Et c'est moi qui ai remonté le débat à moi tout seul en sortant les arguments des uns des autres. Et l'émission a duré 1 heure et quart comme elle devait. Et là, je dois dire, j'étais assez content de moi. Et les gens à la TV étaient assez étonnés.
Au total, vous avez travaillé 21 ans, je crois, à la télévision suisse romande.
Ouais, 20 ans.
20 ans, vous avez été
Ouais.
présentateur, rédacteur en chef du téléjournal, producteur. Une
Oui.
première question, quelles sont les activités d'un producteur, en résumé?
Ben, si je prends une émission comme Temps présent, dont j'étais producteur, il y avait deux producteurs, enfin, il y a encore deux producteurs à temps présent, maintenant, c'en est peut-être plus un. Ben, c'est les producteurs qui déterminent les sujets avec les équipes, qui visionnent les sujets quand les équipes reviennent, qui les corrigent, qui les présentent, etc. Donc, c'est rédacteur en chef d'une émission, si vous voulez.
Très bien. Quel serait votre meilleur souvenir et quel serait le pire de toutes ces années à la télévision?
Bon, alors, le souvenir le plus lumineux, c'était quand j'étais à temps présent, au moment où l'Allemagne de l'Est, où le mur était sur le point de tomber. L'été avant que le mur tombe, j'étais donc à temps présent, et on avait envoyé une équipe en Hongrie parce que beaucoup d'Allemands de l'Est fuyaient leur pays en passant par la Hongrie. Et ils avaient fait un sujet là-bas en retournant aussi en Allemagne de l'Est, en interviewant différentes personnes. Et on a diffusé ce sujet le 9 novembre 89, le soir même où le mur est tombé. Donc pendant que l'émission était diffusée, le mur tombait. Et le soir même, on s'est dit, il faut qu'on retourne, ça ne va pas, le mur est tombé, il faut qu'on aille retrouver les mêmes personnes et tout ça. Et il se trouve que la journaliste qui avait fait le sujet ne pouvait pas. Et c'est moi qui suis allé avec la réalisatrice qui avait fait le sujet 2 jours après, le samedi, on s'est retrouvé à Berlin. On est repassé en Allemagne de l'Est, retrouver toutes ces personnes. Et c'était un souvenir inoubliable de faire un sujet, en fait, dans une histoire en train de se faire. Ça, c'était un tout, tout grand moment de télévision.
Très bien. Et votre pire souvenir?
Mon pire souvenir. Pas si j'ai un pire souvenir. Bon, j'ai un souvenir mais, qui est plutôt anecdotique, mais sur le moment, je n'étais pas fier. C'était aussi à une table ouverte, en conclusion d'une émission. Là, c'était un débat où il y avait une vingtaine de personnes. Et puis à la fin de l'émission, bon, je dis au revoir, je dis à tout le monde, aux gens, donc je suis en direct et je vous remercie beaucoup. Vous avez tous été, puis je voulais dire formidable, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit dégueulasse. Vous avez tous été dégueulasse. Les gens étaient un peu surpris, et moi le premier, j'ai conclu l'émission tant bien que mal. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris, je ne sais pas d'où est venu ce mot, mais enfin bref. Enfin, il n'y a pas eu de suite. J'ai pas été viré à la suite de ça.
Une autre question qui se pose, vous avez fait, je pense, plusieurs reportages dans le cadre de temps présent dans des pays très autoritaires. Est-ce que vous avez quand même une liberté de tourner comme vous auriez aimé ou très peu? Comment ça se passait concrètement d'aller, par exemple, en URSS ou dans d'autres pays très autoritaires?
Ben alors, il se trouve que je n'ai pas tellement fait de reportages dans ces pays-là. Ben pour 2 raisons simples. D'abord, j'ai fait, comme reporter à temps présent, j'ai fait que 2 ans, donc 6 reportages en fait, parce qu'après, en tant que producteur, à part l'Allemagne de l'Est que je vous cite, on ne bougeait pas, les producteurs. Et puis, comme je parlais parfaitement l'allemand, Il se trouve que les producteurs d'avant m'envoyaient souvent faire des reportages et des enquêtes en Suisse. Donc j'ai assez peu voyagé, j'ai pas malheureusement pas de souvenirs de grands reportages en Chine, en Russie ou Dieu sait où.
Et en tant que producteur, quel retour vous aviez des journalistes qui étaient sur place? Est-ce que eux pouvaient quand même plus ou moins interviewer les gens qu'ils voulaient ou très difficilement?
Ah, c'était très, très variable. Ça dépend aussi de l'expérience. On avait des journalistes à temps présent qui avaient une grande, grande expérience et qui savaient comment faire. On a eu un exemple assez curieux. C'était quand Ceausescu est tombé en Roumanie. Ça s'est passé à 23 décembre, je me souviens encore. J'étais là à mon bureau de production avec mon coproducteur. On suivait ça à la TV. Puis on s'est dit, ça va pas, il faut qu'on envoie une équipe tout de suite. Donc on a mobilisé une équipe, on les a envoyés le lendemain en Roumanie avec pour ambition de diffuser un sujet tout début janvier. Donc ils devaient faire un reportage en 5 jours, revenir, remonter le sujet en vitesse, etc. Donc ils sont allés, ils sont revenus fin décembre et quand le 30 décembre, je crois que c'était le 30 décembre ou le 31, on est allé visionner le sujet, on était complètement abasourdis parce que il se passait rien. Enfin, je veux dire, tous les gens qui étaient interviewés étaient calmes. Pourtant, c'était un sujet qui était fait à Timișoara. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous ne vous souvenez pas, vous étiez parlé, mais
Il y a eu un
Timișoara.
charnier là-bas, oui, je me souviens.
Voilà, exactement. Et ils ont fait un sujet là-bas, on interrogeait les gens, et puis c'était complètement irréel parce que, je ne sais pas, c'est comme si on avait été à Fribourg ou à Sion, quoi. Et puis alors on a discuté avec l'équipe, on a dit, mais écoutez, il y a quelque chose qui ne joue pas. Enfin bref, et en 2 jours, avec eux, on a complètement remonté le sujet différemment, avec leur matériel, mais on l'a fait différemment et tout ça, pour finalement arriver à montrer le désarroi qui existait là-bas à ce moment-là. Et c'est un sujet qu'on a diffusé le 6 janvier, je crois. Et je me souviens, on avait invité des Roumains, des réfugiés roumains qui avaient fui la Roumanie. À la diffusion de l'émission. Et il y en a un qui était venu avec une couverture. Et je lui ai demandé pourquoi il avait une couverture. Puis il s'est marré. Il a dit, mais je vous ai amené une couverture. Parce que nous, enfin nous, les Suisses, on partait en Roumanie avec des couvertures. Puis ce n'est pas de couverture qu'ils avaient besoin. C'était d'autres choses.
Après cette expérience à la télévision, vous avez été rédacteur en chef de la Tribune de Genève, vous êtes retourné là où
Oui.
vous avez commencé votre carrière. Même question que tout à l'heure, est-ce que vous avez un souvenir très marquant, un excellent souvenir particulier?
C'est marrant, rien de, y a rien qui me vient comme anecdote comme ça. Sinon, enfin, une anecdote idiote, mais qui illustre peut-être quand même un peu le travail de rédacteur en chef. Le premier jour où j'étais là, j'ai demandé à ma secrétaire de m'acheter un cahier. Enfin, j'avais l'intention de, tous les soirs avant de rentrer, de raconter un peu ma journée en bref et peut-être qu'en faire quelque chose à la fin, un bouquin, que sais-je, etc. Il se trouve que j'étais rédacteur en chef 6 ans. Ce cahier est resté désespérément vierge. Non pas parce qu'il ne se passait rien, mais parce que le soir, j'étais tellement crevé que je pensais qu'à rentrer, qu'à partir sur mon vélo, dans ma bagnole et partir. Parce que c'est un boulot, rédacteur en chef, c'est gratifiant et tout, mais il faut savoir qu'on ne, la journée ne se passe jamais comme on a pensé qu'elle se passerait. On a des projets, on veut faire ci, on veut faire ça, et puis on est bousculé sans arrêt par des problèmes, soit personnels, soit par rapport à ce qui se passe. Alors oui, il y a quand même un souvenir. Maintenant, ça me vient, évidemment. Il y a eu la chute des tours à New York, des rédacteurs en chef. À l'époque, c'était en 2001. Et je me souviens, on avait une salle de réunion où il y avait une TV qui était allumée. Puis il y avait deux personnes, je crois, qui regardaient la TV, je ne sais plus ce qu'ils regardaient. Puis tout d'un coup, ils sont venus me dire, peut-être aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu ces tours s'effondrer. Il a fallu un moment qu'on réalise ce qui est en train de se passer. C'était l'après-midi, vers 3 h de l'après-midi. Et on a décidé à ce moment-là, j'ai convoqué toute la rédaction, on a décidé de complètement changer le journal, de le consacrer entièrement à ce qui se passait là. Donc, en 3-4 heures, on a fait un journal complètement différent de ce qu'on voulait au départ. Et à 11 heures du soir, quand on avait tout rendu, On était ravis, on était tous allés au bistrot et le lendemain, on a recommencé, on a consacré tout le journal à cette histoire de Tours, à ses suites. Donc c'était un grand moment très stressant, très prenant, mais qui en même temps avait beaucoup soudé la rédaction et qui, je pense, en tant que rédacteur en chef, m'a fait du bien parce que je n'étais pas là depuis très longtemps. Et ça a été en fait un événement un peu fondateur qui a beaucoup soudé l'équipe.
Très bien, les questions suivantes portent sur l'ensemble de votre carrière, que ce soit
Oui.
journalisme, presse écrite ou télévision. Est-ce que vous avez dû faire face à de nombreux procès? Comment ça se passe? Est-ce que ça arrive quand même souvent qu'il y a quelqu'un qui fait un procès parce qu'il trouve que l'information n'a pas été juste, qu'on a critiqué son entreprise de manière non conforme, etc.? Est-ce que c'était fréquent?
Non, c'était pas fréquent. Je n'ai pas eu de procès directement, moi, comme journaliste. J'en ai eu comme rédacteur en chef, évidemment, mais pas des masses. J'ai rien connu de très marquant, de très grave, heureusement. C'était aussi une période où, disons, il y avait plus de respect que maintenant de la liberté de la presse, hein. Il y a quand même des lois récemment qui ont été renforcées, etc., pas dans le bon sens. Mais bon, moi, je n'ai pas connu d'aventure, grave à ce niveau-là.
Lors d'une émission de télévision, est-ce que vous avez eu une fois dû faire face à un problème technique énorme, qui vous a vraiment compliqué la tâche en direct?
Non, pas de problème en direct. J'ai eu un problème, c'est de nouveau anecdotique et idiot, mais c'est. Vous savez, les présentations de temps présent, en général, on les enregistrait le matin même ou la veille, etc. Et un jour que j'enregistrais une présentation de temps présent, j'étais en train de faire mon laïus face à la caméra et tout d'un coup, une jeune femme toute dévêtue qui est arrivée vers moi, etc. Et j'ai tout de suite su ou subodoré de qui ça venait, parce que quelqu'un de la TV, un collègue de la TV préparait un truc pour les fêtes. Alors, je n'ai pas perdu le nord, j'ai enlevé ma veste, j'ai couvert la dame et je l'ai raccompagnée vers la porte du studio. Et c'est une séquence qui m'a valu un peu de célébrité en France, parce que cette séquence a été diffusée un peu, en tout cas en France, plusieurs fois. Et j'avais une maison de vacances à l'époque dans la Drôme. Et les gens là-bas avaient vu ça, et je peux vous dire que l'été qui a suivi, ils sont bien moqués de moi.
Une autre question, lors des émissions de débat particulièrement, est-ce que vous avez dû une fois faire face à une dispute vraiment gigantesque entre plusieurs participants, entre deux personnes qui ont eu du mal à se réconcilier par après? Est-ce que vous avez un souvenir particulier?
Non, pas à ce niveau-là. Le problème le plus fréquent, honnêtement, c'était les bavards. C'était arriver à ce que tout le monde s'exprime. Il y en avait qui avaient tendance à accaparer la parole. Alors là, il fallait développer certaines techniques pour couper la parole, etc. Il y avait aussi les autres, il y avait quelques autres qui disaient rien. Il y avait notamment un conseiller fédéral, je me rappelle, Alphonse Egli, qui était quelqu'un de très archi. Il répondait à la question, il bavardait pas. Et j'avais un collègue qui l'avait interviewé, qui avait fait l'interview de lui, et qui, comme souvent on fait dans ces interviews qu'on ne devrait pas, mais on met un peu la réponse dans la question, quoi. Vous avez, etc. Est-ce que c'est pas parce que? Et le conseiller fédéral en question, au lieu d'élaborer, il répondait oui, il répondait non. Et puis c'était tout. Et mon collègue était tout bête avec cette interview où il disait rien du tout.
Et puis, quel serait votre meilleur souvenir d'interview? Est-ce qu'il y a une personnalité quand même qui vous a plus marqué que les autres, un interview en particulier qui vous a beaucoup touché ou...
Écoutez, c'est vraiment mon voyage en Allemagne de l'Est, là. Hein. Je me souviens d'une des personnes interviewées qui était un Allemand de l'Est, tout simple, un ouvrier qui avait été interviewé dans le premier reportage parce qu'il était resté en Allemagne de l'Est, parce qu'il était fidèle au régime. Et quand on est allé retourner le voir après la chute du mur, le type était absolument effondré. En disant, c'est la deuxième fois qu'on nous ment, on nous a menti à la fin de la guerre, on nous ment maintenant. C'était très, 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 très prenant de voir la détresse de cette personne toute simple, mais vraiment touchée très profondément.
Et quand vous étiez rédacteur en chef de la Tribune de Genève, est-ce que vous aviez quand même un certain nombre de tentatives de pression, peut-être d'un annonceur du journal ou d'un politicien pour que vous ne publiez pas une information? Est-ce que c'était monnaie courante qu'il y ait des tentatives des téléphones ou du courrier pour vous tenter de vous influencer?
Ouais, c'est pas comme ça que ça se passait. C'était jamais très direct. C'était plus qu'on essayait de nous persuader de quelque chose plutôt que de nous demander carrément de faire ci ou ça. Il y avait aussi le problème des fois des annonces. À l'époque, c'était Publistat qui s'occupait des annonces de la Tribune de Genève et quand ils avaient une annonce douteuse, ils venaient toujours consulter le rédacteur en chef.
Un
Alors, il y a
exemple d'annonce douteuse.
Bon, c'était plutôt évidemment des annonces politiques qui, à la veille de votations importantes, je n'ai pas de souvenir précis, mais le problème souvent, c'était des annonces qui racontaient en partie des choses qu'on savait fausses. Donc, fallait un peu naviguer entre d'une part
Pour
ça, d'autre
discréditer un
part quand
candidat
même.
pour qu'il ne soit pas élu, bien sûr.
Non, puis quand même le droit de s'exprimer, hein. Mais j'ai pas de j'ai plus de souvenirs précis en tête. Faut croire qu'il n'y a rien eu qui m'a suffisamment marqué ou travaillé à l'époque.
Écoutez, il me reste à vous remercier 1000 fois pour cette
Mais
interview
merci.
et à vous souhaiter le meilleur pour la suite.
Merci à vous aussi.
C'est ainsi que se termine cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.